Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie pour le transfert d'argent de la France vers la Côte d'Ivoire, le Mali, le Sénégal.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Merci d'être avec nous. L'antenne vous appartient. Ce matin, nous attendons vos réactions sur la situation au Burundi. Après 18 mois de crise politique, la Fédération internationale des droits de l'homme dresse un bilan macabre. Plus de 1000 morts, des centaines de disparus et 310 000 exilés. La FIDH affirme qu'il existe un risque de génocide. Elle exhorte donc la communauté internationale d'agir avant qu'il ne soit trop tard. En tout cas, cette semaine, le Sénat belge a invité des membres de la société civile burundaise en exil à débattre autour de cette question. Qu'est-ce qui empêche la communauté internationale d'agir et de protéger le peuple burundais? Eh bien, cette question, nous vous la posons ce matin. Comment mettre fin aux violences? Que vous inspire la gestion de cette crise? Alors certes, des sanctions ont été adoptées, mais visiblement, elles sont insuffisantes. 33 9 693 693 70. Vous continuez également à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, notamment sur la page Facebook de l'émission. Je lirai quelques-unes de vos réactions tout à l'heure pour alimenter le débat. Mais d'abord, comme tous les matins, votre rendez-vous avec la rédaction d'RFI. Ce sont vos questions pour mieux comprendre, mieux décrypter l'actualité. Josiane nous appelle du Cameroun. Elle est à Yaoundé. Bonjour Josiane.
Bonjour Juan.
Vous avez des questions sur le Rwanda?
Effectivement, ma question porte sur l'actualité au Rwanda où l'Église catholique a une nouvelle fois demandé pardon pour tous les chrétiens qui ont été impliqués dans le génocide rwandais en 1994. Alors, j'aimerais savoir où en sont les condamnations des membres de l'Église impliqués dans cette affaire. Et puis, peut-on espérer que cette action de l'Église puisse relancer les enquêtes judiciaires afin que l'ensemble des coupables soient condamnés?
Bonne question, effectivement. C'est vrai que le rôle de l'Église dans le génocide rwandais en 1994 est controversé. Elle a souvent été accusée d'être proche du régime hutu extrémiste de l'époque. Bonjour Stéphanie Aglietti.
Bonjour.
Vous êtes la correspondante d'RFI au Rwanda. Alors, Josiane a raison d'insister sur le fait que l'Église catholique a demandé une nouvelle fois pardon pour tous les chrétiens. C'est vrai qu'en l'an 2000, sous l'impulsion de Jean-Paul II, le pape, l'Église rwandaise avait fait son mea culpa. Ce deuxième mea culpa arrive donc 22 ans après le génocide. Il y a eu, oui, des prêtres et oui, des religieux qui ont été impliqués dans les massacres et plusieurs d'entre eux ont été jugés.
Oui, tout à fait. Des prêtres, des religieux et religieuses catholiques ont fait face à la justice. Le plus haut responsable de l'Église catholique à avoir été jugé a été donc l'évêque Augustin Misago. Il a toutefois été acquitté et libéré en juin 2000. Il est décédé depuis. D'autres sont passés devant le tribunal pénal international pour le Rwanda, le TPIR à Arusha en Tanzanie, mais aussi devant la justice belge. On se souvient qu'en 2001, s'est tenu en Belgique le premier procès pour génocide au nom de la compétence universelle. Sur le banc des accusés, deux religieuses bénédictines qui ont finalement été condamnées à des peines allant de 12 à 20 ans de prison pour avoir livré aux miliciens hutus plusieurs milliers de personnes qui étaient réfugiées dans leur couvent. Mais le plus grand nombre de procès de membres de l'Église s'est déroulé au Rwanda. Certains ont d'ailleurs été jugés et condamnés par contumace, c'est-à-dire en l'absence du prévenu, car en effet, certains hommes d'église recherchés par la justice rwandaise sont en fuite ou vivent à l'étranger. Alors, je veux aussi évoquer l'affaire d'un prêtre qui fait depuis 1995 l'objet d'une véritable bataille judiciaire. Donc, il s'agit de Venceslas Munyeshaka, l'ancien curé de la paroisse Sainte-Famille à Kigali. Il vit et officie toujours en France, dans une église en Normandie. Alors, il a été condamné en 2006 à de la prison à vie au Rwanda. Mais les juges français ont finalement statué sur un autre lieu l'année dernière, estimant que l'enquête n'avait pas permis de caractériser juridiquement sa participation active au génocide. Les parties civiles et la Fédération internationale des Ligues des droits de l'homme ont fait appel de cette décision.
Alors, dans quelle mesure, Stéphanie Aglietti, ces nouvelles excuses, ce nouveau mea culpa de l'Église catholique rwandaise peut faire avancer la justice?
Eh bien, selon Ibuka, la principale association de rescapés du génocide, cette demande de pardon permet une nouvelle fois de continuer à briser le silence de l'Église et donc pourquoi pas ouvrir la voie à de nouveaux procès. Ibuka espère notamment que les excuses de l'Église rwandaise vont pousser le Vatican à enquêter sur certains de ses membres soupçonnés d'avoir trempé dans le génocide. Maintenant, bon, reste à savoir si cette question est vraiment un sujet de préoccupation au Vatican, si le Vatican est prêt à sauter le pas, et surtout si l'Église rwandaise peut avoir assez de poids. Alors ça, rien n'est moins sûr.
Ouais. Est-ce qu'on peut éventuellement envisager des réparations, et notamment des réparations financières?
Oui, mais c'est en tout cas ce que les associations de rescapés espèrent, même si là aussi, rien n'est moins sûr. Depuis plusieurs années, ces associations demandent des réparations financières pour s'assurer que la souffrance des rescapés est reconnue, que c'est une question de justice. Les associations appellent à la création d'un fonds international pour les victimes, un fonds qui pourrait être alimenté par des pays ou organismes accusés d'avoir à différents degrés une responsabilité dans le génocide. Ibuka évoque par exemple la France ou la Belgique, mais encore l'ONU et pourquoi pas l'Église catholique.
Ouais.
Un projet qui est pour l'instant resté lettre morte et qui en l'état a peu de chances d'aboutir. Toujours est-il que bon, Ibuka espère toutefois que cette demande de pardon va permettre de relancer cette question, même s'il ne faut pas oublier que les excuses de l'Église rwandaise ont été faites au nom des chrétiens qui ont trempé dans le génocide et pas au nom de l'institution. Voilà, le président de la conférence épiscopale l'a bien dit, l'Église n'a pas participé au génocide.
Effectivement, voilà. C'est ce que disait Philippe Rukamba, le président de la conférence épiscopale rwandaise. Merci beaucoup Stéphanie Aglietti d'avoir été avec nous. Josiane, on a répondu à vos questions?
Elle a bien répondu. Merci Stéphanie pour cet éclairage.
Et merci à vous de votre fidélité à Yaoundé. Bonne journée à toutes les deux. Il est 9h17 à Paris. 33 9 693 693 70. D'autres questions à la rédaction d'RFI. Mamadou nous appelle de Dakar. Bonjour.
Allô?
Bienvenue. Vous êtes sur l'antenne d'RFI. Vous avez des questions. On vous écoute.
Bonjour, Franny. C'était à propos de Belmokhtar. J'ai appris à travers RFI que l'une de ses épouses a été arrêtée en Libye. Qu'est-ce que cela révèle comme information? Deuxièmement, est-ce que cela aussi peut aboutir à l'arrestation de Belmokhtar lui-même?
Alors, Mokhtar Belmokhtar, le chef du groupe Al-Mourabitoun, qui fait partie d'ACMI, Al-Qaïda, au Maghreb islamique. Alors, effectivement, l'une de ses épouses a été arrêtée dimanche en Libye, à l'est du pays. Bonjour, Houda Ibrahim.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste au service Afrique d'RFI. Vous avez pu vous entretenir avec le chef de la brigade de la direction libyenne générale pour la lutte contre le terrorisme, qui dépend du ministère de l'Information. Cette femme interpellée dimanche s'appelle donc Asma Kedoussi. Que sait-on des circonstances de son arrestation?
Elle était à Darna, donc la ville qui est à l'est du pays, et c'est en se dirigeant à nouveau vers le désert, vers une ville où Belmokhtar s'est trouvé il y a plusieurs jours. Il y a certainement 4 mois, il était là-bas, et c'est ce que surtout son arrestation révèle. Il était là-bas, il était vivant. Donc
ça signifie quoi? Qu'après son arrestation, elle a commencé à parler?
Bien sûr, et l'investigation avec elle continue, et ce brigadier, ce responsable militaire qui dépend du ministère de l'Intérieur libyen nous promet de nous dire tout à la presse ce samedi, mais bien sûr, dire tout, ça veut dire ce qu'ils ont envie de dire.
Évidemment.
Et ce qu'ils ont révélé jusqu'à maintenant, c'est que cette femme, on sait maintenant qu'elle est tunisienne, qu'elle était venue à Derna pour accoucher, qu'elle avait avec elle sa petite fille de 40 jours.
Elle a été interpellée dans une voiture, hein. Elle était sur la route.
Dans une voiture, sur la route, en se rendant vers cette ville fameuse du sud de la Libye, où il y a beaucoup de terroristes, où il y a le I, où il y a Al-Qaïda.
Mm-hmm.
Et c'est là où on a des preuves sur des choses qu'on connaît déjà. Par exemple, la liaison qui existe entre Belmokhtar et d'autres groupes terroristes, comme le groupe de Ziad Balaam, qui est un de chefs de guerre en Libye, mais qui est un fanatique également, qui était à Jdabia, qui est lui responsable de l'avion français, la tuerie de 3 soldats français dans l'avion. C'est son groupe qui s'appelle le Conseil de Choura de Benghazi, et il a fait liaison avec Belmokhtar comme plusieurs autres groupes au Mali et dans d'autres pays.
Et tout ça, c'est elle qui le raconte ?
Elle le raconte, effectivement. Mmh. Elle dit, il existe, il y a 4 mois, il était sur une base de Ziad Balaam, ça, elle le raconte. Elle raconte qu'il y a 4 mois, il était toujours vivant. Et dans son téléphone portable, qui raconte énormément de choses, et quand j'ai eu le responsable militaire libyen, hier, il m'a dit, on a juste pu, jusqu'à maintenant, trouver, lire 10% de ce qu'il y avait sur son portable. Donc, d'accord. Il y avait toute la littérature de Al-Qaïda, énormément de livres religieux et de combats. Et il y avait quelques photos, pas beaucoup de photos, pas de photos de son mari, mais des photos, par exemple, de son frère Khaled, qui est mort dans un combat. On a appris d'elle qu'elle était mariée 2 fois auparavant à deux hommes qui ont été morts dans des combats qui appartenaient à Al-Qaïda.
Elle donc était déjà mariée à des djihadistes.
Elle était déjà, c'est aussi une histoire courante chez les djihadistes. Une femme qui a le mari qui meurt dans le combat, c'est un honneur de se marier à nouveau avec elle.
Ouais, on rappelle tout de même que Mokhtar Belmokhtar fait partie des personnes les plus recherchées au monde. D'ailleurs, les États-Unis offrent une récompense de 5 millions de dollars pour tout renseignement permettant son arrestation ou sa mort. Sa mort qui a souvent été annoncée ces dernières années. Les dernières informations que vous disposez, Houda Ibrahim, c'est qu'il est vivant. C'est en tout cas ce qu'a voulu dire l'une de son épouse, donc celle qui a été arrêtée dimanche.
Il est vivant et on l'appelle l'insaisissable parce que plusieurs frappes américaines et plusieurs traques, même des chefs des pays africains dans le Sahel l'ont poursuivi, l'Algérie, d'autres pays, même l'Égypte le recherche. Et il est vraiment insaisissable. Il est dans le désert, quelque part. Il se balade énormément. Certaines informations dans les mois qui ont précédé ont fait état du fait qu'il se baladait en Libye librement à ce point. Il était à Ajdabia en Libye et c'est là où il y a Ziad Balaam. Et même Ziad Balaam, il y a quelques mois, il était encore à Misrata.
Bon, on devrait en tout cas en savoir davantage samedi. Le responsable que vous avez eu au téléphone promet de révéler toutes les informations. Merci beaucoup, Houda Ibrahim, d'être venu répondre à Mamadou, à qui on souhaite évidemment une bonne journée à Dakar. Au standard, nous avons, si je retrouve ma petite fille, Alouceni. Bonjour Alouceni.
Oui, bonjour Juan, comment ça va?
Très bien, merci. Vous nous appelez de Paris.
Oui.
C'est bien ça, on vous écoute.
Après la diffusion d'un reportage sur Soka Palm, qui appartient en partie au groupe Vincent Bolloré, et après cette diffusion, le groupe est monté au créneau et a porté plainte contre France Télévisions et contre les journalistes au Cameroun. Alors, moi, j'aimerais savoir pourquoi cette plainte a été déposée au Cameroun et non en France.
Alors, Anne Cantner est avec nous. Bonjour Anne.
Bonjour.
Vous êtes journaliste au service Afrique d'RFI. Alors, effectivement, France Télévisions est poursuivie pour diffamation par la Soka Palm, qui est la société camerounaise de palmeraie, après la diffusion d'un reportage évoquant les conditions de travail au sein de cette entreprise. Alors, ce reportage a d'abord été diffusé au mois d'avril, dans l'émission Complément d'enquête sur France 2, puis rediffusé en juillet dernier. D'abord, qu'est-ce qui pose problème? Pourquoi la Soka Palm a-t-elle porté plainte?
Alors, ce qui pose problème dans ce reportage à la Soka Palm, c'est que les journalistes se sont rendus dans une palmeraie, ont rencontré des travailleurs et qui ont expliqué dans le reportage qu'ils étaient mineurs, qu'ils travaillaient avec très peu de protection. On les voit sur les images avec les mains abîmées. Ils n'ont pas de gants, ils n'ont pas de casque. Et donc, plusieurs d'entre eux disent qu'ils sont mineurs, donc ils n'ont pas l'âge légal pour travailler. C'est ça ce qui est révélé dans le reportage. Et c'est ça ce qui pose problème à la Soka Palm, puisqu'elle affirme que tout ceci est faux et estime donc qu'il s'agit de diffamation.
Effectivement, donc elle a porté plainte au Cameroun. Du coup, la présidente de France Télévisions, le présentateur de l'émission, l'auteur du reportage sont cités à comparaître en février prochain au Cameroun. Mais à côté de cette plainte au Cameroun, parallèlement, il y a également une procédure qui est engagée en France.
Oui, voilà. Alors en fait, ça n'est pas la seule procédure qui est lancée et il y a effectivement quelque chose qui a lieu en France. En revanche, ce qui est assez étonnant, c'est que contrairement à ce qui se fait dans ces cas-là, c'est-à-dire porter plainte devant une chambre spéciale qui a l'habitude de traiter ces affaires de diffamation ou de diffamation présumée au tribunal de grande instance, eh bien cette fois-ci, le groupe Bolloré a décidé d'attaquer devant un tribunal de commerce pour préjudice commercial et il réclame quand même 50 000 euros.
Alors on parle du groupe, Anne Cantner, on parle du groupe Bolloré, puisque ce reportage était consacré aux activités africaines du groupe Bolloré, dont celle de la Socapalm, dont Bolloré est en partie actionnaire. Donc il réclame 50 millions d'euros à France Télévisions.
50 000 euros
50 000.
Pour préjudice auprès du tribunal commercial, auprès du tribunal de commerce en France. Mais ça, c'est pas la procédure habituelle. Et effectivement, vous avez raison de le préciser, c'est qu'en fait, cet extrait de la Socapalm, il s'inscrit dans un portrait beaucoup plus large et qui était quand même clairement défavorable au groupe Bolloré, qu'il montrait sous un assez mauvais jour. Donc, il y a eu une première procédure en France, il y a maintenant cette procédure au Cameroun qui risque quand même d'aboutir à des sanctions très lourdes. Alors pour l'instant, il s'agit uniquement d'une citation à comparaître, mais si jamais la procédure se poursuit et en imaginant que les journalistes puissent être condamnés, il risque quand même jusqu'à 6 mois de prison au Cameroun.
Effectivement, et on rappelle que la somme réclamée par Vincent Bolloré est bien de 50 millions d'euros, somme qu'il réclame donc à France 2. Merci Anne Cantner d'avoir été avec nous. Allô Ceni, bonne journée à Paris. On va terminer avec une question concernant la primaire de la droite et du centre. Bonjour Romuald.
Bonjour Juan, bonjour à toute l'équipe de la Paix sur la Qualité.
Vous nous appelez d'Abidjan, en Côte d'Ivoire.
Oui, c'est ça. En fait, Emmanuel Macron a annoncé sa candidature. Et je voudrais savoir, en cas de défaite de Alain Juppé au second tour de la première républicaine, est-ce que les potentiels électeurs de Alain Juppé voteraient pour Emmanuel Macron ?
Alors, la question peut sembler un peu saugrenue comme ça, mais faut savoir qu'une partie du camp d'Alain Juppé semble penser que l'annonce la semaine dernière de la candidature d'Emmanuel Macron à l'élection présidentielle a eu un effet sur la décision des électeurs au premier tour de la primaire de la droite. Bonjour François-Xavier Bourmeau.
Bonjour.
Vous êtes grand reporter au Figaro, vous publiez aux éditions L'Archipel Macron, le banquier qui voulait être roi. Emmanuel Macron peut-il détourner des électeurs de la droite ?
Eh bien, bien sûr, oui, évidemment, puisqu'il est exactement sur le positionnement, sur une partie du positionnement d'Alain Juppé. On se souvient qu'Alain Juppé est accusé par François Fillon, on le voit dans le deuxième tour, là, d'aller chasser sur les terres de la gauche et plus précisément du centre-gauche. Alors ce centre-gauche, c'est un cœur de cible électorale sur lequel s'est positionné Emmanuel Macron. Et il va justement, maintenant que François Fillon est en très bonne position pour devenir le candidat des Républicains, mais Emmanuel Macron, il voit se dégager devant lui un espace politique qui peut lui garantir, en tout cas, d'engranger des électeurs au premier tour de l'élection présidentielle.
Il y a donc une partie de l'électorat du centre et de la droite qui s'intéresse à Emmanuel Macron.
Oui, parce que le positionnement d'Emmanuel Macron, quand il explique qu'il n'est pas de droite ou pas de gauche, en fait, ça parle à tous ces électeurs centristes qui ne se reconnaissent pas dans la droite que peut représenter ou que pourra représenter demain François Fillon, ou dans une gauche qui serait incarnée par un François Hollande qui a beaucoup déçu, voire un candidat qui serait encore plus à gauche, on pense à Arnaud Montebourg ou Benoît Hamon. Donc cet espace central en France, cet espace du centre, il a toujours existé. Or, avec François Bayrou, qui avait lié son destin à Alain Juppé, qui se demande s'il ne va pas y aller, qui hésite, mais pour qui ça va être très compliqué de mettre en place une quatrième candidature, mais il y a effectivement des électeurs qui sont orphelins et qui commencent à regarder vers Emmanuel Macron.
Et d'ailleurs, quand on regarde les sondages, si on continue à les croire, évidemment, Emmanuel Macron est plus populaire chez ceux qui votent Bayrou que chez les électeurs de gauche. Merci beaucoup, François-Xavier Bourmeau, d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous publiez aux éditions L'Archipel Macron, le banquier qui voulait être roi, et vous êtes grand reporter au Figaro. D'autres questions à la rédaction, évidemment, demain. D'ici là, vous continuez à nous appeler. Le standard reste ouvert tout au long de la journée. 33 9 693 693 70. On a besoin de connaître évidemment vos questions un peu en avance pour contacter les personnes les mieux placées au sein de la rédaction, celles qui suivent au plus près les dossiers qui vous intéressent pour être présentes avec nous le matin et vous répondre en direct. 9h30 dans 30 secondes exactement, le journal, et on revient tout de suite après pour parler de la situation au Burundi. Que doit faire, que peut faire la communauté internationale ? À tout de suite.
Priorité santé.